Ce matin, on m'a demandé de parler justement de cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint. De quoi s'agit-il? Alors, on connaît bien dans le renouveau, pour ceux et celles qui sont des anciens, ce qu'on appelait l'effusion du Saint-Esprit ou baptême dans l'Esprit Saint. Dans le monde francophone, on parlait davantage d'effusion du Saint-Esprit. Et puis, alors que dans le monde anglophone, hispanophone, on parlait facilement baptism in the Holy Spirit ou bautismo, je suis pas très fort en espagnol, mais bon, c'était ça. Ce qui fait que quand Et vous savez que cette grâce, peut-être, ce qui est intéressant de voir d'où ça vient. Donc, on le sait, on a fêté en 2017 les 50 ans de cette grâce du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Donc, ça veut dire 1967 dans l'Église catholique, mais c'est plus ancien, bien sûr. Ça vaut le coup de commencer à se dire d'où ça vient. Personnellement, voilà, j'ai eu l'occasion dans mes études de prêtre, d'approfondir un peu le sujet. C'est pour ça, cet ouvrage, c'est simplement le mémoire d'étude sur cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Creusez un peu le sujet. Et vous le savez peut-être, sans doute, tout a démarré, en fait, fin du 19e siècle, avec une religieuse italienne qui s'appelait Elena Guerra. Alors, juste pour un petit sondage, qui connaît Elena Guerra? Levez la main bien haut. Donc, il y a encore beaucoup à faire connaître. Parce que figurez-vous qu'elle a été canonisée par le pape François le 20 octobre 2024. Donc c'était il y a même pas un an. Je pense c'est une, voire peut-être les dernières canonisations du pape François, si je me trompe pas. Donc c'est quand même très révélateur. En même temps, au fond, avec mon livre, j'avais un petit surplus d'une neuvaine à l'Esprit Saint, une neuvaine de Pentecôte avec des paroles de Elena Guerra, si ça vous intéresse, voilà, mais vous pouvez trouver ça aussi sur Internet facilement, mais plutôt sur des sites italiens, parce que dans le monde francophone, elle est très peu connue. Donc, cette religieuse italienne qui vivait à Lucca, en Italie, Luc, eh bien, elle a des émotions. Jésus vient lui parler intérieurement dans son cœur et lui dit, écoute, Jésus était triste parce que, dit, dans l'Église catholique, on a oublié le Saint-Esprit. Et il faut que tu écrives au pape pour lui dire qu'il faut qu'il enseigne les fidèles, les catholiques, sur le Saint-Esprit. Donc vous imaginez, bon, à l'époque, fin du 19e siècle, vous êtes une simple religieuse, écrire au pape, c'était un peu compliqué. Donc elle a mis du temps, à la fin, Jésus a tellement insisté qu'elle l'a fait. Le pape était Léon XIII à l'époque, donc maintenant on commence à, voilà, tout de suite, tout le monde s'intéresse à Léon XIII. Voilà. Est-ce que maintenant on est Léon XIV? Voilà. Bon, il y a peut-être un petit signe, mais bref. Et figurez-vous que le pape a écouté. Donc, comme quoi, vous voyez, les papes, ils écoutent le Saint-Esprit aussi. En tout cas, à travers cette simple sœur. Et donc, il a fait une encyclique sur le Saint-Esprit en 1897. Divinum in Lud Munus. Elle existe qu'en latin. Mais aujourd'hui, avec les traducteurs sur Internet, c'est facile, c'est incroyable. En 2 minutes, vous pouvez avoir l'encyclique en français. Même moi qui suis nul en latin, vous voyez, c'est bon. Du coup, il le fait. Mais vous savez, les encycliques à l'époque, c'était pas sur Internet dans toutes les langues du monde, hein. C'était en latin et on l'envoyait aux évêques. Et en plus, à poste, à cheval, je sais pas quoi. Et autant dire que les évêques, bon, certains, ils s'y intéressaient plus ou moins. Donc, Jésus redit à Elena Guerra, écoute, ça va pas parce que ça a pas du tout marché. Personne a lu l'encyclique. Ça a rien changé. Personne s'en occupe. Donc, alors, il y a quand même un point intéressant. C'est que, dans l'encyclique ou juste avant ou après, je sais plus, le pape avait commencé, il avait rétabli la neuvaine au Saint-Esprit, la neuvaine de Pentecôte. Vous voyez, première chose de dire, ben, il faut qu'entre Ascension et Pentecôte, on se mette à nouveau comme au Cénacle, comme les apôtres, pour demander le Saint-Esprit à nouveau. Et il avait dit comme intention particulière de cette neuvaine de le faire en particulier pour l'unité des chrétiens, pour la restauration de l'unité de l'Église. Donc, vous voyez, pour ça qu'on parlera de l'unité cet après-midi, parce que c'est intimement lié, le baptême dans l'Esprit Saint, l'effusion du Saint-Esprit et l'unité. Ça va complètement ensemble. Et d'ailleurs, vous voyez, je fais des petits sauts comme ça, mais comme ça, on voit la cohérence de ce que Dieu fait. Le pape François, vous savez, quand en 2017, il a parlé au renouveau charismatique mondial, peut-être à Rome, là, pour le grand jubilé du renouveau, il y en a qui y étaient, là, moment magnifique, on était 50 000, là, au Colisée, ben, il a dit, voilà ce que j'attends du renouveau charismatique. Ben, c'est partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint, d'où le titre du bouquin, d'où l'enseignement, etc. On essaye de faire ce que le pape nous demande. Et puis, travailler à l'unité Parce qu'il dit, ce renouveau dans l'esprit, il est œcuménique à la base, à la naissance. Et vous voyez, quand je remonte aux racines, aussi loin que sont les racines, on voit l'unité, elle était inscrite. Même à une époque, on n'était pas du tout dans cette démarche entre chrétiens, catholiques, protestants, c'était toujours tendu. Hein. Mais vous voyez, à la racine, le pape dit, on va prier le Saint-Esprit, toute l'Église, on revient au Cénacle, en particulier pour l'unité des chrétiens. Voilà. Et donc on voit tout et l'aboutissement, on voit la cohérence. Le pape François, qu'est-ce qu'il dit? Ben, vous travaillez à l'unité et puis le service des pauvres et l'évangélisation, hein, l'annonce de l'Évangile, évidemment. Donc voilà. Donc Elena Guerra, le pape Léon XIII rétablit la neuvaine et comme c'était, ça fonctionnait pas super bien. Nouvelle, il y avait toujours cet échange épistolaire. Je crois qu'il y a eu 13 ou 14 lettres entre la sœur et le pape. Elle lui a dit, ce serait formidable si pour le début du XXe siècle, donc la première messe du XXe siècle, le 1er janvier 1901, vous pourriez, comme consacrer le XXe siècle au Saint-Esprit, spécialement en chantant le Veni Creator au nom de tous les catholiques. Alors vous connaissez le Veni Creator, c'est cet hymne au Saint-Esprit très ancienne, on dit peut-être du IXe siècle, hein, peut-être de Rabban Mort, on n'a pas l'existence, la certitude, mais et ça commence, viens Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce, des lumières, etc. Alors, c'est une hymne qui est magnifique. Hein. Moi, personnellement, je commence toutes mes journées avec le Veni Creator en français, parce qu'encore une fois, je suis pas un très bon latiniste, c'est chaque jour, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment une prière d'une puissance. Et d'ailleurs, si vous voulez l'approfondir, il y a un très bon livre du cardinal Cantalamessa qui s'appelle Viens Esprit Créateur, en fait, qui est un commentaire de ce Veni Creator. Mais voilà. Donc, du coup, le pape Léon XIII, 1er janvier 1901, solennellement. Alors, il était seul, hein, il n'était pas devant la place Saint-Pierre avec... mais voilà, il y avait tous les anges, les saints, en tout cas le bon Dieu entendu, le Saint-Esprit. Il invoque le Saint-Esprit pour toute l'Église. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le Saint-Esprit arrive au Vatican. Non, il fait un détour. Il dit non, là, ça va pas le faire tout de suite. Et il arrive directement, c'était au Kansas, là, voilà, ce groupe d'étudiants méthodistes, réunis avec leur pasteur, qui était en train de lire les Actes des Apôtres et qui lisent les merveilles de Dieu, notamment l'action du Saint-Esprit puissante, les prophéties, les chants en langue, ce qui se passe après la Pentecôte, quand on dit les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, etc. Et donc, ils disent à leurs pasteurs, les étudiants, mais comment ça se fait que nous, on voit plus ça, les chants en langue, les prophéties? Imposez-nous les mains comme faisaient les apôtres pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Donc le pasteur le fait. Et ils se mettent à chanter en langue, etc. On va dire effusion du Saint-Esprit, pentecostal. Ils vivent un renouvellement profond et ils commencent à en témoigner dans leur église méthodiste, mais ils sont pas très bien accueillis, on les prend un peu pour des barjots. Du coup, ils se mettent un peu à part et dans la liberté, la facilité, la souplesse de nos frères et sœurs protestants, le pasteur dit, nous, finalement, on vit de l'esprit de Pentecôte, et ça a donné ce qu'on a appelé les pentecôtistes. Il a fondé une communauté, qu'il appelait pentecôtistes. Je vous passe tous les détails, qui a grandi, vous connaissez peut-être l'histoire avec Azusa Street, 1906. Enfin, on voit comment Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est pas une œuvre humaine, hein. C'est vraiment, parce qu'Azusa Street, c'était un pasteur noir américain qui a commencé dans un garage dont personne ne voulait, etc. Et il y a eu une effusion, un déversement du Saint-Esprit, un réveil à partir de là, qui a touché donc le monde entier. Réveil pentecôtiste. Donc, il y avait des millions de pentecôtistes dans le monde entier, jusqu'à ce que finalement, des protestants classiques eux-mêmes se laissent transformer tout en restant dans leur église. On appelait ça des néo-pentecôtistes. Si vous voulez, il y avait des baptistes qui devenaient pentecôtistes charismatiques, il y avait des anglicans, des épiscopaliens, toutes les confessions chrétiennes, si vous voulez, protestantes réformées, évangéliques, qui étaient renouvelées, devenaient charismatiques, jusqu'à ce qu'en 1967, on y arrive, des professeurs d'université aux États-Unis catholiques, intéressés par des témoignages, se disent il y a quand même quelque chose là, il faut qu'on y aille. Et donc ils ont été priés avec des groupes comme ça, pentecôtistes, néo-pentecôtistes, et demander eux-mêmes à ce qu'on prie pour eux. Et ils font cette expérience de ce qu'on a appelé le baptême dans l'Esprit Saint. Et puis ils organisent un week-end pour des étudiants peu après. Voilà, le Saint-Esprit tombe sur ces étudiants qui sont transformés et vous connaissez la suite de l'histoire, sans doute. Ça a gagné le monde entier jusqu'à dans toute l'Église catholique, et en particulier en 1975, À Rome, il y avait un premier rassemblement des pentecôtistes catholiques, enfin des charismatiques catholiques, à la Pentecôte 1975. C'était déjà un jubilé, hein, c'était il y a 50 ans. Est-ce qu'il y en a qui y étaient? À Pentecôte 75. Amen. Alors il paraît, tout le monde l'a dit, et donc il y a eu une rencontre dans la place, dans la basilique Saint-Pierre avec le pape Paul VI. Vous voyez, c'est la première fois qu'il devait parler aux charismatiques. Et au Vatican, il y avait des gens qui disaient au pape, non mais eux, ils sont un peu très sympas, attention là, c'est un peu, c'est dangereux. C'est, voilà. Et le pape est arrivé, et je crois que c'est juste avant, au moment où le pape était là, il y a eu un chant en langue qui est parti, magnifique. Ceux qui étaient là s'en souviennent encore. Et je crois qu'il y a eu une parole prophétique très forte de Ralph Martin, un Américain, qui disait, peut-être certains pourront me confirmer, que des pans entiers de l'Église tomberont, hein, mais que le Seigneur allait rebâtir, qui lui-même, hein, allait restaurer, reconstruire, qu'il était à l'œuvre. Hein, voilà. Et c'est sûr, bah, c'est ce qu'on voit dans notre Église, hein, des pans entiers qui s'effondrent, mais à la fois, on voit un renouveau, un réveil magnifique. Donc ça, c'était 1975, et le pape Paul VI a eu cette parole très célèbre en disant que ce renouveau dans l'esprit était une chance pour l'Église. Hein, c'était vraiment, voilà, l'encouragement du pape. Et depuis, tous les papes ont encouragé le renouveau charismatique, jusqu'au pape François, qui, providentiellement, pour fêter les 50 ans du renouveau catholique, il se trouve que le pape lui-même, alors qu'au départ, il trouvait le renouveau, il appelait ça les danseurs de samba, il l'a dit lui-même, hein. Il a dit, je trouvais que c'était un peu, voilà, en Argentine, et il dansait la samba, il voyait ça un peu de loin. Et lui-même, invité par, quand il était archevêque de Buenos Aires, par des diocésains qui ont invité à participer à un rassemblement ou l'autre, il a été touché. Il a demandé la prière, il a reçu lui-même le baptême dans l'esprit. Vous avez des vidéos sur YouTube où on voit avec les pentecôtistes qui prient, le cardinal Cantalamessa, qui n'était pas encore cardinal, mais qui est là, il prie pour lui et il l'a compris de l'intérieur. Et d'où son appel ensuite, hein, ce qui est fort, c'est que il a fallu que le bon Dieu lui-même ait intervenu pour que ce soit le pape qui dise au renouveau, mais maintenant il faut partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'esprit et travailler à l'unité des chrétiens. Hein, on voit comment, moi j'aime bien voir comment le Seigneur, quand il agit, il a de la suite dans les idées, hein, depuis Léon XIII. Alors Léon XIV, il n'a encore rien dit, il vient d'arriver, on attend de voir la suite, mais forcément c'est la continuité. Hein, tous les papes, c'est la continuité. Il y a de la suite dans l'idée. Et le bon Dieu lui-même assure le service après-vente. Donc, il y a plein d'épreuves, il y a plein de difficultés, on le sait, marquées par notre Église, nos mouvements, nos groupes, tellement de souffrances. Hein. Il y a la joie et la croix, mais la gloire de Dieu est là. Et donc, on va essayer de maintenant se redire un peu c'est quoi cette grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Et pour nous aujourd'hui, même si ça fait peut-être 50 ans, 60 ans qu'on l'a reçu, ou peut-être même si on arrive et qu'on débarque et qu'on n'a jamais entendu parler de ça. C'est le pape François lui-même qui a parlé de la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que le titre de mon bouquin, j'ai repris l'expression de ce qu'il avait dit. Et il l'a dit même avant 2017, à la première rencontre qu'il a eue avec le renouveau charismatique italien et international. C'était le 1er juin 2014, dans un stade à Rome. Je ne sais pas si certains y étaient. Ouais, super, bravo. Et donc, c'est là qu'il a employé ce terme. Et pour la première fois, il a dit vraiment de partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Et il a ajouté, tel qu'on lit dans les Actes des Apôtres, hein, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Voilà. Parce que, évidemment, le baptême chrétien, dit Saint Paul, il y a un seul baptême, une seule fois un seul baptême, c'est un baptême dans l'Esprit Saint. Hein. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, par le baptême, on est plongé, hein, dans la grâce de Dieu, dans le Saint-Esprit. Alors quand on parle de cette grâce du baptême de l'Esprit Saint, de cette expérience du baptême de l'Esprit Saint ou effusion du Saint-Esprit, hein, voilà, c'est l'équivalent, ça désigne véritablement comme un renouvellement, une expérience particulière de la puissance du Saint-Esprit qui est faite depuis justement le 20e siècle, là, et qui a touché toutes les confessions chrétiennes, toutes les dénominations. Et qui est finalement, pour ça qu'on dit que c'est un renouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une redécouverte, finalement, de la richesse du baptême et de la confirmation. Y compris dans la dimension des charismes. Parce que, soit dit en passant, moi je connais une seule phrase du catéchisme de l'Église catholique par cœur, c'est le numéro 1302, qui dit que l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion plénière du Saint-Esprit telle que les apôtres l'ont reçue au jour de la Pentecôte. Donc je redis, ça veut dire l'effet du sacrement de confirmation, c'est l'effusion plénière, pas 50%, pas 80%, pas 30%, l'effusion plénière du Saint-Esprit telle que les apôtres l'ont reçue au jour de la Pentecôte. Rien de moins. Parce que parfois, il y a des discussions dans l'Église pour dire, oui, au début, le Saint-Esprit, il a mis un grand coup sur la tête des apôtres. Vous savez, c'est comme quand vous lancez une quille, là, une boule là dans le jeu de quilles. Elle dit, on lance le truc et après, elle roule. Mais 2000 ans après, elle roule un peu moins vite, quoi. Elle a même tendance à s'enliser un peu. Mais c'est pas ça. Ça veut dire qu'à chaque sacrement, baptême, confirmation, ça va ensemble, on est d'accord, c'est parfaitement uni. Et même parfois, dans les actes des apôtres, on nous parle, par exemple, quand à la Pentecôte, Pierre dit « Faites-vous baptiser, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit ». À l'époque, il n'y avait pas la distinction baptême-confirmation, mais ça inclut les deux. Et on voit qu'à chaque fois, les apôtres, tous ceux qui ont reçu le baptême au nom de Jésus, ils leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on voit qu'il y a ces doubles, cette double étape, baptême au nom de Jésus, et imposition des mains pour la réception du Saint-Esprit. Donc dans l'Église catholique latine, on a distingué, on a dit baptême, confirmation. Dans la tradition orthodoxe ou orientale, les deux sont liés. On fait quand on est petit d'un seul coup l'initiation. Mais c'est indissociable. Donc c'est pour ça, une petite précision. Voilà. Mais bien sûr, si des frères et sœurs sont pas confirmés pour des catholiques, c'est urgent qu'ils le fassent. Donc voilà, discussion pour dire... Est-ce qu'au début de l'Église, il y avait une impulsion très forte du Saint-Esprit, des grâces particulières pour les apôtres, et puis ensuite, les autres, nous on arrive 2000 ans après, on profite de ce qu'ils ont reçu, on s'émerveille de ce qu'ils ont reçu, et puis on se débrouille avec ce qu'on a. Pas du tout, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, puisque le sacrement de confirmation que tu as reçu, que j'ai reçu, son effet, c'est l'effusion plénière du Saint-Esprit telle que les apôtres ont reçu. Donc il n'y a rien de moins, ok ? C'est la même chose. Sauf que, eh bien forcément, dans notre vie, on n'est pas toujours au rendez-vous. Si Dieu est toujours au rendez-vous des sacrements, nous, pas toujours. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré Jésus à l'âge de 24 ans, je ne savais pas dire si j'avais été confirmé ou pas. J'ai dû aller voir mes parents le 30 mai 1980 à Paris, à l'église Saint-Lambert. Donc, je le crois dans la foi. Enfin non, pas dans la foi d'ailleurs, parce que j'ai un papier. Mais franchement, je n'ai aucun souvenir. Pour vous dire quand même, bon, voilà, j'étais pas le premier de la classe en caté. Donc, par contre, on sait que dans notre théologie catholique, Dieu donne sa grâce dans les sacrements, même si on n'est pas présent. Sauf que c'est comme les cadeaux, voilà, on les a jamais déballés en fait. Moi, le cadeau, je l'avais reçu, il était dans un coin, je savais même plus qu'il était là. Et quand j'ai redécouvert le Seigneur Jésus, je me suis dit, ah oui, au fait, c'est vrai, il y a ça. Finalement, l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, c'est libérer cette grâce du Saint-Esprit que j'ai reçue au baptême et à la confirmation, cette effusion plénière du Saint-Esprit, mais qui a été comme captive ou entravée, on dit aussi en théologie, le sacrement, l'effet du sacrement, il est entravé. Il est entravé par quoi ? Un peu comme une source, si vous voulez une source, si vous pouvez l'ensabler ou l'entraver, ça peut pas bien jaillir, quoi. Il se passe, on voit rien, en fait, Vous savez, une source qui est toute ensablée, vous voyez rien. Vous voyez de l'herbe un peu verte. Il faut creuser et vous allez refaire jaillir la source. Donc ils sont entravés. Entravés par quoi ? Entravés par le manque de foi. Effectivement, c'était mon cas. Moi, quand j'étais confirmé, j'avais pas trop la foi en Jésus et que j'allais recevoir quelque chose à ce moment-là, certainement. Et puis le péché aussi, bien sûr. Quand nos refus d'aimer, ce qui nous détourne de Dieu, ça nous coupe de la source. Si on veut libérer cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies, il va falloir désentraver, désensabler. Alors ici, c'est un lieu particulier, le lot, un lieu de grâce, on dit pour se convertir, pour se réconcilier avec Dieu. Donc on peut recevoir le sacrement du pardon, donc profitons-en largement. Comme on nous l'a dit, c'est soit au veillé sur la prairie derrière, là il y a les prêtres du sanctuaire qui sont disponibles, soit dans la basilique à d'autres moments de la journée, je pense qu'ils sont disponibles aussi. Et en plus, on est dans une année jubilaire. Bon là, je fais une petite parenthèse. On vous a dit sur le jubilé, Vous savez, le jubilé vient du jubilé biblique, où Dieu avait dit, tous les 7 fois 7 ans, les septenaires d'années sabbatiques, ça fait la 50e année, c'est un jubilé. Ça veut dire, c'est une année où on réintègre sa terre, où on libère les esclaves, on remet les dettes. C'est une année, justement, pour reprendre possession, finalement, de notre héritage de fils et de filles de Dieu, exactement tout ce qu'on a, sur quoi on a parlé hier, pour libérer les captifs, pour recevoir le pardon et pour pardonner, remettre les dettes. Vous savez, dans notre Père, c'est remets-nous nos dettes comme nous les remettons. Et le pardon des péchés, c'est ça, c'est la remise des dettes. Le péché, c'est une dette d'amour que j'ai envers Dieu, que j'ai envers les autres. Donc, demander pardon à Dieu, demander pardon, ou pardonner, remettre les dettes à ceux qui nous doivent aussi. Et ça, c'est très important aussi, si on veut libérer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, de vivre cette remise des dettes. Même si les personnes ne nous demandent pas pardon, n'ont aucun repentir, Dieu nous demande de pardonner, nous. Comme lui-même sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'a pas attendu que les hommes soient là en train de lui demander pardon. Et donc c'est aussi une grâce à demander de pouvoir pardonner pour libérer cette puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Et la poussière. Donc je vous encourage à vivre cette grâce du jubilé. Il y a une grâce particulière justement de libération des captifs, d'entrer dans une espérance nouvelle, puisque ce thème en plus du jubilé a une coloration particulière sur l'espérance. Et vous savez que dans chaque diocèse, les évêques sont invités à identifier des églises jubilaires, c'est-à-dire où on peut vivre cette démarche du jubilé, c'est-à-dire déposer les fardeaux, demander pardon, remettre les dettes, et puis à travers une démarche de prière, de pèlerinage, puisque nous sommes ici, c'est tout simple, il suffit d'aller à l'église, à la chapelle, comme on dit, il y a un petit guide avec 2-3 étapes, faire mémoire de son baptême, effectivement se confesser dans les jours qui autour de la démarche, communier, donc on remplit toutes ces conditions-là, et puis obtenir ce qu'on appelait l'indulgence plénière. Alors l'indulgence, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est-à-dire cette pleine remise des dettes, des fautes, des conséquences de nos péchés. Et donc, on peut l'obtenir pour un défunt ou pour nous-mêmes. Voilà. Mais vous avez le petit papier, je pense, qui explique. Donc, profitons aussi des grâces jubilaires de ce lieu. Je me souviens, il y a un an, quand on était pour le rassemblement à Paray, là-bas, il y avait le jubilé de Paray le Monial, 350 ans. Et on a vécu, chaque jour, on allait passer la porte, parce que là, il y avait une porte, ce qui n'est pas le cas ici, il suffit de rentrer dans l'église normale, avec le pasteur Carlos Payan, etc., en église, aussi de différentes confessions, et je trouvais ça un signe magnifique, de venir ensemble, Seigneur, et puis on a ce désir d'entrer dans l'espérance, justement, de l'unité pleine et entière d'un cœur réconcilié et uni en toi, Seigneur. On veut avancer avec toi. Voilà. Voilà, parenthèse fermée sur les grâces du jubilé, mais qui revenait sur cette question de désentraver le sacrement de baptême et confirmation, puisqu'on a déjà reçu toute cette puissance du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais je dirais, il y a même plus que simplement désentraver le sacrement. Parce que même à la confirmation, on ne reçoit pas un camion-citerne de Saint-Esprit pour tout le restant de notre vie. Si je peux pas vous dire, où est-ce que tu as mis ta réserve du Saint-Esprit, là, quand tu as reçu à ta confirmation? Ah ben, j'en ai plus, ou c'est à sec? Non. La confirmation, le sacrement, représente en fait une ouverture à la plénitude du Saint-Esprit. Et vous savez, depuis la Pentecôte, les cieux sont ouverts. Dieu a répandu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, mais c'est pas pour dire à J+1, le lendemain, les cieux se sont fermés, ça y est, c'est fini. Non. C'est pas comme un Canadair, il arrive, il largue l'eau qu'il a emmagasinée et après, il est à sec. Non, du côté du bon Dieu, ça coule. Vous connaissez le dernier chapitre de l'Apocalypse, le fleuve de Dieu qui coule du trône et de l'agneau. Ce fleuve qui donne la vie. Un fleuve qui nous rappelle le fleuve que Ézéchiel a vu au chapitre 47. Qui coule du côté 3 du temple, qui au début est comme un torrent, et que après Ézéchiel s'avançait, il en avait au niveau de la cheville, des genoux, des hanches, et après c'était un torrent infranchissable. Et il y avait des arbres de vie qui poussent de part et d'autre, et ces feuilles servent à la guérison des nations. Vous avez ça, donc ce thème du fleuve, en fait, qui traverse toute la parole de Dieu depuis la Genèse. Ézéchiel, qu'il voit en prophétie, et dans l'Apocalypse, ça y est, c'est réalisé là. C'est plus une prophétie, c'est Jean, il a vu le fleuve. Donc le fleuve de Dieu, comme on chante, le fleuve de Dieu est ici. Le fleuve, il coule. La grâce de Dieu coule. La puissance du Saint-Esprit se déverse comme un fleuve infranchissable. Et c'est lui qui veut renouveler la face de la terre, nos vies, nos existences, toute l'Église. On vit dans une époque, avec ce réchauffement, on vit des périodes de grande sécheresse. Et on voit la souffrance de la création, de toute la nature dans cette sécheresse. C'est assez, je sais pas si vous avez, moi j'ai fait ingénieur des eaux et forêts avant d'être prêtre, donc ça, parfois ça me fait mal dans ces périodes-là quand je vois les arbres, les plantes, je vois qu'ils souffrent, j'ai presque envie de, je souffre avec elles, je dis ah, j'aimerais d'aller te, je vais te donner à boire, je sais pas, je vais aller, mon pauvre. Eh bien, je pense que notre humanité souffre aussi d'une sécheresse, d'une aridité, du spirituel. Alors heureusement, on voit des ruisseaux qui commencent à couler, un réveil, un peu partout, et on y aspire de tout notre cœur. Merci aussi aux frères et sœurs plus anciens, fidèles, qui depuis les débuts du renouveau ont persévéré, parfois dans le désert, en se disant, en étant parfois pas très bien accueillis, pas très bien compris, ou marginalisés. On a un peu l'impression comme Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Voilà. Mais merci de votre fidélité. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a le Seigneur fait du nouveau. De toute façon, il fait toujours, il fait toutes choses nouvelles. Mais je crois vraiment qu'on vit une saison particulière, et tout le monde le dit. Maintenant, même dans nos paroisses, on voit ces gens dans toutes les confessions partout, ces jeunes qui arrivent. On ne sait pas trop d'où, etc. Donc il y a un vrai réveil quand Dieu dit mais je vais répandre la soif, la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ben, c'est exactement ça. 10 personnes saisiront un juif par le manteau, disant ben c'est où, c'est quoi. Chez moi, dans ma paroisse, la Clamart, je me souviens une fois, je vais pour démarrer la messe au fond, et puis il y avait une jeune de, je sais pas, elle avait une 12 ans, 13 ans. Elle me dit bonjour, je viens pour la messe. Elle dit je viens pour la première fois, je suis venue. Ah ben c'est super, je dis ben vas-y installe-toi avec tes parents, et puis on verra à la fin de la messe. Puis elle me dit ah, mais non, mais je suis venue toute seule, mais j'ai déjà lu la Bible. Mais donc elle avait, je sais pas, des copines lui avaient parlé, elle avait commencé à lire la Bible, elle dit je vais aller à la messe, même sans ses parents, à 12 ans. Vous voyez, il y a quelque chose de bluffant, cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Voilà, donc je crois vraiment que le Seigneur veut faire il y a un déversement nouveau du Saint-Esprit, il y a une effusion nouvelle. Et si le pape nous dit de partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit, c'est vraiment, c'est une grâce, et c'est une grâce puissante. C'est le fleuve qui coule, qui veut nous entraîner, nous submerger, qui veut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et d'ailleurs, les pères de l'Église eux-mêmes disaient « La nouveauté elle-même a besoin d'être renouvelée. » La nouveauté elle-même a besoin d'être renouvelée. Saint Grégoire de Nice aussi qui disait qu'au ciel, on irait de commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin. C'est magnifique ça. De commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin. Et donc, frères et sœurs, j'ai envie de dire aujourd'hui, ben, commençons. Accueillons d'une manière nouvelle encore commençons quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit faire quelque chose de nouveau dans ma vie, dans mon groupe, dans mon église, dans ma paroisse, dans le monde. Voilà. À travers nous. Laissons-le nous submerger. En priant, je me suis rendu compte, en tout cas, dans ma vie, mais je pense que pour nous, en France, c'est assez, ça nous marque assez fort. C'est un autre obstacle à l'accueil du Saint-Esprit. C'est que, bon, moi j'ai fait des études d'ingénieur, je l'ai dit, donc je suis le gars cartésien, donc je crois à ce que je vois. Et en France, on est très marqué par cet aspect très rationaliste. Vous savez qu'à la Révolution, on a adoré la déesse raison. Vous savez ça. Dans certaines églises, on a mis la déesse raison réellement. C'est pas une image, une façon de parler. On a mis une charmante dame là. On a baptisé déesse raison et on va l'adorer. Inclinez-vous, prosternez-vous, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, plus profondément? Ça veut dire qu'on était tellement fascinés par l'intelligence humaine et la raison humaine, qui est vrai, qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Eh bien, qu'on la met au-dessus de tout. Au-dessus du bon Dieu. Ça veut dire finalement, je crois ce que je vois. Ou je crois, j'accueille que ce que je peux comprendre. La mesure de toute chose va devenir ma raison. Donc, on va dire, je vais soit je rationalise, etc., ou j'intellectualise, ou on reste beaucoup dans notre cerveau. Quand on fait ça, le problème, c'est qu'il y a une chape de plomb qui descend sur le cœur. Moi, je me souviens, le prédicateur, quand je me suis converti, il a dit ça, et j'ai trouvé ça tellement vrai, parce que on part dans notre tête, et moi, c'était ça, et c'est notre défi, je trouve, pour nous, Français. On est très cérébraux, y compris dans notre église, puisqu'on vide l'air qu'on respire, y compris la formation, qui est très bien d'avoir une très bonne formation intellectuelle, même pour nos prêtres, je dis pas du tout. Mais il faut que l'intelligence soit pas la déesse raison, mais qu'elle soit au service du cœur. Ouais, c'est la dernière encyclique du pape François sur le cœur. Et tout part du cœur dans la Bible. Le problème, c'est l'endurcissement du cœur dans la parole de Dieu. Et l'endurcissement du cœur vient justement quand on part à cause de l'orgueil de l'intelligence. Voilà. Et ça, il faut détrôner ça. Il faut décapiter, désolé, la déesse raison. Non pas qu'on va vivre comme des décérébrés, on va rendre grâce à Dieu pour l'intelligence qu'il nous donne, la mettre en valeur, mais la mettre au service de l'amour, hein, au service de Dieu finalement. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Hein. » Et pour ça, une petite image que je tiens d'un prédicateur, on verra si certains ont reconnu, mais ça date de longtemps. Et là, cette année, je sais pas pourquoi, quand on m'a demandé de parler de l'effusion du Saint-Esprit, ce truc-là m'est revenu pour moi et même pour nous, pour accueillir ce feu nouveau, ce vin nouveau, hein, je pense, du réveil. C'est un entonnoir. Quand on veut accueillir la douche du bon Dieu, la grâce de Dieu qui coule, le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu nous a donné un entonnoir. Dans l'entonnoir, il y a le V de l'ouverture, là, ok? Ça, c'est la bonne volonté. J'accueille avec ma bonne volonté. J'ouvre mon cœur, si vous voulez. Et puis, il y a la partie étroite, là. Ça, c'est comme un I. D'accord? Ça fait un I. Ok? I de intelligence. Alors, pour bien utiliser l'entonnoir, si vous le mettez dans ce sens-là. D'accord? Vous mettez le I en haut. Je sais que je suis très beau. Merci à la cuisine pour leur magnifique entonnoir orange. Donc vous vous mettez sous la douche avec un entonnoir. Vous verrez, vous serez pas très mouillé, même si ça coule à flot. Ça, ici, on met l'intelligence en premier. C'est-à-dire, je filtre tout a priori. Je n'accepte que ce que je comprends, ce qui passe dans mon filtre. Je veux tout maîtriser, contrôler. Seigneur, tu as le droit de faire des choses dans ma vie, mais il faut d'abord que tu m'expliques tout ce que tu vas faire, les conséquences, le bénéfice-risque, voilà. Donc là, parce que ça, c'est notre mentalité. On est forcément une mentalité scientifique, on cherche à maîtriser, à contrôler. Je dis pas qu'il faut pas être prudent, qu'il faut pas le faire, c'est intéressant, c'est important de réfléchir, etc. Mais si je mets toujours mon intelligence en premier, bah, ça risque de faire ça au niveau de la grâce de Dieu. Par contre, si je retourne l'entonnoir, je dis, Seigneur, j'accueille ton amour, j'accueille ta grâce, j'accueille ton Esprit Saint. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Sois libre, fais des choses nouvelles. Seigneur, sois libre de me déplacer, de m'entraîner plus loin, plus profond, au-delà de ce que je peux imaginer. Fais-moi sortir de ma zone de confort, Seigneur. Peut-être j'accepte de perdre le contrôle, de perdre pied, comme Ézéchiel dans le fleuve. Hein. Je reste pas, vous savez, comme je suis... Quand on est sur la plage, on peut rester comme ça, le bout des orteils, voilà. C'est sympa, mais ça, c'est pas se baigner, ça. Il y a un moment quand on se baigne, il y a le moment fatidique où on perd pied. C'est vrai, hein. Et quand on sait pas bien nager, c'est le moment, quand on perd pied, c'est ouh, faut expérimenter que l'eau va nous porter, mais il y a un peu un acte de foi, hein, au départ. Ben après, on le sait. Une fois qu'on a expérimenté, c'est bon. Mais la première fois, on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est pas évident quand on n'a plus pied. Eh bien, il faut accepter de perdre pied dans l'amour de Dieu, se laisser entraîner au-delà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser notre intelligence, elle est importante. C'est pour ça que dans l'entonnoir, on accueille et après, il y a le « i » pour filtrer, ça s'appelle le discernement. Hein, évidemment, c'est très important de discerner. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il ne s'agit pas d'être désilluminé. Il s'agit d'accueillir la puissance du Saint-Esprit, mais de commencer par accueillir, de se laisser entraîner, déplacer, bousculer, toucher, transformer. Et puis, on va discerner avec l'aide des frères et sœurs, en église, etc. Pour ce soir, la veillée, pour recevoir le nouveau souffle de l'Esprit-Saint, vous n'oublierez pas. Alors déjà, vous pouvez le faire, vous prenez votre entonnoir au-dessus de la tête, là, Allez-y, vous l'avez là? Ok, allez, on le retourne. Au nom de Jésus, Seigneur, amen. J'accueille ta grâce, ta miséricorde, ta paix et je mets mon intelligence au service de ton amour. Amen. J'aimerais effectivement revenir sur cette question du baptême dans l'Esprit Saint. C'est Jésus qui en parle dans les Actes des Apôtres. Hein, donc effectivement, donc c'est pas une invention du renouveau charismatique, évidemment. Jésus, au début des Actes, juste au moment de repartir vers le Père, il faut que vous attendiez ce que le Père a promis. Ce que dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Donc on voit déjà que ce baptême dans l'Esprit Saint, Jésus dit, c'est ce que le Père a promis. C'est la promesse du Père. Vous imaginez, c'est la promesse, en fait. Et quand vous lisez les prophètes, on connaît toutes ces prophéties dans Joël, dans Jérémie, dans, voilà, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Dans Jérémie, la nouvelle alliance, tous me connaîtront du plus petit au plus grand. C'est la promesse. C'était le rêve de Dieu, depuis la chute et même avant la chute. C'est que notre vie soit une vie remplie du Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne, la vie humaine accomplie, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Saint Paul dira dans la lettre aux Éphésiens, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Certaines traductions disent dans la Bible de Jérusalem, cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. Voilà, c'est une manière de dire, mais voyez, c'est-à-dire mon accomplissement, c'est dans l'Esprit Saint. C'est quand je suis rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le rêve de Dieu, c'est qu'on soit comme un poisson dans l'eau. Le poisson, il est fait pour être dans l'eau, quoi. Et nous, on est fait pour vivre dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pas à côté du bocal. Sinon, un poisson à côté du bocal, c'est pas très beau à voir, hein. Ça fait ah, bon, bon. Et parfois, s'il y a des chrétiens à côté du bocal, eh ben, ça donne pas trop envie, quoi, franchement. C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. On est fait pour ça. Ça, c'est la promesse du Père. Et Jésus dit, cette promesse, elle va s'accomplir. Hein, attendez ce que le Père a promis. C'est ça, la Pentecôte. C'est l'accomplissement de la promesse du Père que on soit rempli du Saint-Esprit. Qu'on retrouve finalement notre pleine respiration, notre plénitude de vie humaine, qu'elle s'accomplisse dans l'Esprit Saint. Donc, Jésus dit, vous, Jean a baptisé dans l'eau, vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Un petit mot sur le terme de baptiser, parce que en fait, ce mot n'a pas été traduit du grec. En fait, le mot grec c'est baptisein. Jésus dit, Jean vous a baptisein, avec la bonne conjugaison, avec de l'eau, mais vous allez être baptisein, avec la bonne conjugaison, dans l'Esprit. Et comme pour le mot week-end, vous savez, on emploie week-end en français. Tout le monde sait ce que ça veut dire. En fait, c'est un mot anglais. Ça veut dire fin de semaine, ok? Eh ben, on en est venu à tous dire baptisein, baptisein. Mais en fait, en français, ça veut dire quoi baptisein? Hein? Ben, si on traduit, en fait, ça veut dire être plongé, être immergé. Et l'image que moi qui me vient, c'est celle quand il y a des enfants qui jouent, donc quand on jouait dans la baignoire avec le petit canard en plastique, vous savez, vous avez des petits canards là. Et parfois, il y avait un petit trou au niveau de la tête du canard là. Et quand on le plongeait dans l'eau, ça faisait bloup 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 et il se remplissait d'eau. Et c'était très drôle. Moi, ça me faisait beaucoup rire, mais c'était le bon Dieu voulait me préparer au baptême dans l'Esprit. Mais c'est ça, être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le coup du petit canard. On en revient à notre truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un trou pour que l'eau rentre, quoi. Il faut ouvrir son cœur, hein. Il faut se laisser remplir. Sinon, si vous mettez, parce qu'il y avait aussi, parfois il y avait des petits canards, il n'y avait pas de trou. Donc, vous les mettez dans l'eau, vous les lâchez, bion, il ressort, il se passe rien. Il repart en courant. Donc voilà, la promesse, le rêve de Dieu, ce que Jésus nous dit, vous serez baptisé dans le Saint-Esprit, vous serez plongé, immergé. Donc, c'est pas trois gouttes du Saint-Esprit sur le front, hein, c'est pas trois gouttes d'eau sur le Saint-Esprit, c'est vraiment être plongé, être rempli, c'est comme infusé, hein, c'est comme le sachet de thé dans le, voilà, faut infuser. C'est pour ça que ça nécessite aussi de prendre du temps. Hein, mon petit canard là, il faut le laisser sous l'eau pour qu'il se remplisse. Faut pas juste faire toc et il ressort, voyez. Et Donc prendre le temps et dans nos vies, c'est pareil. Hein. Alors Dieu peut agir en temps voulu, j'agirai vite, ok, il peut y avoir des grâces foudroyantes, être rempli du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des choses qui s'inscrivent dans le temps. Et il y a besoin d'avoir des bonnes prières, comme nous disait notre frère hier, des chants en langue qu'on prolonge. Parce que pendant que tu prolonges ton chant en langue, et ben le petit canard, il se remplit, quoi. Et tu vois, ton cœur est ouvert, ça coule, ça déverse. Hein. On accueille, voilà. Et on a besoin de prendre le temps. Et moi, je rends grâce à Dieu aussi pour nos louangeurs, là, notre équipe de louanges, qui nous aident à prendre le temps d'adorer Jésus. Et dans ces temps-là, vous savez, c'est des temps importants, pas des temps pour parler à notre voisin, pour penser au rôti ou à je sais pas quel truc. C'est vraiment pour se tourner vers Dieu, pour l'adorer et pour ouvrir grand notre cœur et pour se laisser remplir, se laisser entraîner, emporter par le fleuve, quoi. Donc, on va essayer de vivre ça. Donc, c'est dès maintenant. Hein, je pense que Jésus veut déjà commencer à travailler nos cœurs, mais toute la journée. Pour que ce soir, on ouvre les vannes, comme on disait. Hein. Vous savez, moi, le barrage là-haut, là, dans la montagne, j'ai vraiment envie que il faut que ça libère là. Hein. Quand je vois toute cette eau là-haut, là, je me dis, faut pas qu'elle reste là-haut comme ça. Hein. On veut ouvrir grand les vannes là. On veut que ça coule, que ça se déverse à flot. Donc le baptême dans l'Esprit Saint, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés sous peu de jours, comme une confirmation de ce que je vous dis là. Eh bien, le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Tout un coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Donc déjà, la communauté qu'ils forment, on peut dire l'assemblée qu'ils forment est remplie dans un premier temps. Il y a une grâce ecclésiale, on pourrait dire. Et ensuite, les langues de feu qui se partagent, ils s'en posent une sur chacun d'eux. Donc il y a des dons et des charismes aussi particuliers. C'est-à-dire, c'est pas à la fois un truc collectif. On va dire, c'est à la fois une fusion collective du Saint-Esprit. Oui, parce que c'est ensemble en église, quand on est réunis, et à la fois personnel, une sur chacun. Et donc, ça, c'est ça le poison aussi de comparer dans nos vies spirituelles. Chacun reçoit, et chacun a à vivre quelque chose de particulier. Et peut-être pour certains ça va se passer de telle manière avec des grâces sensibles ou pas, pour d'autres progressives, pour d'autres très instantanées, pour d'autres qui s'étalent. Je vais être réveillé dans la nuit. C'est pour ça il y a une grande diversité d'action du Saint-Esprit. On peut pas le réduire, dire là t'as reçu l'effusion de l'Esprit, non là c'était pas ça, etc. En tout cas la promesse de Dieu elle s'accomplit et tout le reste de l'Écriture nous dit elle est pour tous ceux qui croient, hein, qu'ils soient loin ou qu'ils soient proches. Il s'agit de croire au Seigneur Jésus, croire qu'il est mort et ressuscité pour toi, qu'il a donné ta vie pour que tu sois réconcilié avec le Père. Et si tu lui offres ta vie, tu lui donnes ta vie, tu plonges dans la grâce et tu crois au Seigneur Jésus, eh bien, accueille, reçois le Saint-Esprit. Comme dira Pierre le jour de la Pentecôte, repentez-vous, c'est-à-dire retournez-vous vers Dieu, faites-vous baptiser et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Hein, donc vous voyez, il y a l'aspect à la fois de la grâce du sacrement, hein, bien sûr, mais la grâce du sacrement, elle peut être entravée. Et il y a aussi le au-delà de la grâce, c'est toujours la grâce du sacrement, mais qui va se déployer dans nos vies avec nouveaux envois du Saint-Esprit. Hein. On n'a pas reçu une fois pour toutes, comme je disais. La confirmation, c'est pas une fois pour toutes, mais c'est une ouverture à une plénitude du Saint-Esprit et de commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin. Et même dans la théologie catholique, ceux qui veulent approfondir, j'ai un peu étudié ça dans mon livre, même saint Thomas d'Aquin en parle, de nouveaux envois du Saint-Esprit. C'est la pure théologie, c'est vraiment pas une invention ou un truc un peu bizarre, etc. Même dans nos vies chrétiennes normales, sans attendre le renouveau charismatique, il y a plein d'exemples dans la vie de l'Église de personnes qui, il y a des étapes dans leur vie, et tout d'un coup, ils reçoivent comme un nouvel envoi du Saint-Esprit. Je pense notamment, qui est peut-être plus connu, Saint Philippe Neri, un prêtre italien, on pourrait dire vraiment un charismatique, un fou d'amour pour Jésus et qui témoignait auprès des jeunes, à l'oratorio, etc. et qui aimait le Saint-Esprit. Et il y a ce jour de la Pentecôte où il aimait aller prier sur la tombe des martyrs, là, dans les catacombes. Et il y a ce lieu, on sait, il a prié le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, là, plusieurs heures. Et il y a un moment donné, il a témoigné, il y a eu comme une boule de feu, Là, le Saint-Esprit s'est même pas manifesté sous forme de langue de feu, mais une boule de feu qui l'a traversé, qui lui est rentré, voilà. Et il a été saisi et il témoignait, tout le monde disait, depuis ce jour-là, alors il avait grâce physique, il n'avait jamais froid. Même en plein hiver, en gros, il était avec son t-shirt. Et ça l'a tellement, et son cœur était tellement bouillant, et ça l'a dilaté. Même on a expérimenté qu'il a eu une côte déplacée. Donc on a vu, à la fin de sa vie, on voit qu'effectivement, la côte, ça avait bougé, quoi. Donc lui, il avait vécu une Pentecôte particulière, alors qu'il était déjà prêtre, engagé au service du Christ, et qu'il était déjà, d'une certaine manière, rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'était un nouveau remplissage, quelque chose de nouveau, certainement, de plus puissant pour aller davantage, et pour le réveil qu'il a, parce qu'il a mené un vrai réveil à Rome, et encore aujourd'hui, il y a les prêtres de l'oratoire de Saint-Philippe Neri, un grand amoureux de Jésus et de l'Esprit-Saint, pour nous dire, voilà, quelle que soit même notre histoire, Dieu veut faire du nouveau, peut faire du nouveau et veut nous entraîner plus loin, hein, comme il le veut. Donc, on va prier pour ça. Et donc, les langues de feu se posent une sur chacun d'eux et il nous est dit, tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint. Voyez, c'est ça. La grâce du baptême dans l'Esprit, de la Pentecôte, c'est être rempli du Saint-Esprit, rempli, débordant. Saint Paul dira, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et dans nos vies, il y a tellement de fuites du Saint-Esprit. Non, mais on a besoin de demander ce renouvellement. Dans les temps qu'on vit, en plus dans cette grâce jubilaire, je suis sûr que le Seigneur veut, il est à l'œuvre, on l'a dit, pour remplir, pour répandre son Saint-Esprit d'une manière nouvelle partout, pour renouveler son peuple, son Église, dans ce travail, dans ce réveil. Et prions non seulement pour nous, mais pour toute l'Église, et pour toutes les confessions chrétiennes. Je faisais ce lien avec l'unité, on l'a abordé un peu. Le Saint-Esprit, quand il vient, ben, il fait l'unité dans la diversité. C'est pas dans l'uniformité, mais on y reviendra cet après-midi avec Étienne. Ce que je disais, ben, il y a à la fois l'unité, il y a une grande communion, les apôtres sont dans cette grande communion, et à la fois, il y a la diversité des langues de feu qui se posent sur chacun, avec des dons et des charismes qui sont pas les mêmes. On verra ensuite, ben, Paul et Pierre. Paul dira, moi, j'ai été envoyé aux païens, et Pierre aux juifs. Vous voyez, donc on voit que le Saint-Esprit va ensuite répartir les diversités des charismes, des dons, des ministères. Et c'est aussi ça qu'on a à redécouvrir sur la manière dont le Seigneur veut faire l'unité dans son Église, y compris entre les différentes dénominations. Hein, voilà. Mais ça, on y reviendra cet après-midi. Mais voilà, que le Seigneur vienne déjà ouvrir nos cœurs à nous qui allons vivre maintenant cette Eucharistie, mais qui nous donne... qui viennent rallumer en nous une immense soif, un immense désir. Jésus dit que celui qui a soif, qui vienne à boire et qui boive de l'eau de la vie gratuitement, que l'homme de désir s'approche et qu'il boive. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu as soif? Est-ce que tu as faim et soif? Qui est-ce qui a faim et soif ici? Voilà, faim et soif. Seigneur, j'ai faim et soif plus de toi. Moi, je me suis réveillé avec ça, plus Seigneur, plus, davantage. Je me souviens, je suis venu à peu près 30 ans ici au Lot, et Seigneur, maintenant je veux plus, davantage, plus de toi Seigneur. Il y a tellement plus dans tes réserves divines, dans ces réserves là qui sont, on a tout reçu là, qui sont dans le barrage là, derrière le barrage Seigneur. On veut la plénitude du Saint-Esprit Seigneur. Pour nous, pour toute l'Église, on veut que les fleuves d'eau vive qui jaillissent de ton cœur viennent irriguer à nouveau nos vies, toute notre Église, notre pays, notre vieille Europe, le monde entier. Et Seigneur, nous voulons déjà te remercier pour toutes les effusions, les baptêmes de l'Esprit dont tu nous as gratifiés, toutes les grâces que nous avons pu voir, toucher, hein, tout ce qui a été transformé dans nos vies. Et nous voulons te rendre grâce aussi pour ce réveil que tu as commencé, pour tous ces frères et sœurs qui sont touchés par ta grâce, qui ont soif, qui viennent frapper aux portes de nos églises, qui viennent demander, hein, enseignez-nous, éclairez-nous, on veut Jésus, on veut comprendre la Bible, voilà, on veut s'approcher de Dieu. Voilà, merci Seigneur, parce que c'est vraiment toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui conduis ton Église aussi à travers, eh bien, les, pour nous catholiques, les différents enseignements des papes, cette continuité à chaque fois des papes qui, dans l'accueil de cette grâce du renouveau dans l'Esprit Saint et dans l'encouragement aussi à le vivre et à le partager avec toute l'Église. Et Seigneur, nous voulons vraiment garder au cœur cet encouragement du pape François pour dire que c'est pas seulement pour nous, hein, comme disait Étienne, pour siroter les charismes ou pour faire partie de tel mouvement du renouveau, mais c'est un courant de grâce pour toute l'Église. C'est le fleuve de vie qui veut renouveler toute l'Église, Seigneur. Alors merci de, nous voulons aussi te demander de bénir nos responsables d'Église, nos évêques, nos pasteurs, nos bergers, Seigneur, nos prêtres, voilà, les patriarches. Seigneur, renouvelle ton peuple et renouvelle les responsables aussi. Donne-leur la sagesse, mais aussi l'audace, le discernement et la soif pour conduire ton peuple, pour accueillir aussi ce réveil que tu veux et ce réveil qui vient nous unir de toute confession, qui vient vraiment embellir ton Église, qui vient voilà la faire resplendir de mille feux comme un phare pour les nations, pour tous les peuples. Et merci Seigneur de répandre aussi ces fleuves d'eau vive sur nos frères et sœurs juifs qui attendent ta venue, Seigneur. Mais que tu puisses aussi déverser ton esprit sur eux avec puissance, te révéler comme le Messie d'Israël et que nous puissions être unis pour confesser ton saint nom, Jésus, le seul nom qui nous sauve, le nom au-dessus de tout nom. Amen.